les podcasts de Radio Vatican.
Les Nations Unies dénoncent un nettoyage ethnique devant le drame que vit la minorité rohingya en Birmanie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande aux autorités birmanes de suspendre les opérations militaires. Près de 400 000 rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh depuis fin août pour fuir une campagne de répression de l'armée consécutive à des attaques de rebelles rohingyas. Avant de s'émouvoir sur le sort de cette ethnie pauvre et musulmane, peu se demandent qui sont vraiment ces rohingyas. Quelle est également la marge de manœuvre d'Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement et prix Nobel de la paix, très critiqué pour sa discrétion dans la crise. Autant de questions que nous avons posées à Jean-Louis Margolin, directeur adjoint de l'IRCEA, l'Institut de recherche sur le sud-est asiatique à Marseille.
Le nœud du problème est là. Qu'est-ce que c'est que cette identité rohingya? Le gouvernement birman prétend, avec quelques fondements, que les rohingyas sont simplement, si je puis dire, des musulmans vivant en territoire birman et des musulmans dont la plupart sont d'origine bengali, c'est-à-dire venant du sous-continent indien, qui, vu de l'Arakan, tout à fait au sud-ouest de la Birmanie, évidemment, est tout à fait frontalier, tout à fait limitrophe, avec des frontières existant aujourd'hui, mais qui n'existent que depuis la fin des années 30, scellées en quelque sorte par les indépendances, mais qui pendant des siècles et des siècles n'en étaient pas vraiment. Donc on a des gens qui sont, par certains côtés, venus d'ailleurs, mais en même temps, dont beaucoup d'entre eux vivent depuis de nombreuses générations, qui sont arrivés par exemple à l'époque coloniale où tout simplement la Birmanie, jusque dans les années 30, était une province de l'Empire britannique des Indes et donc pas plus de difficultés ni de problèmes pour passer du Bengale britannique à la Birmanie britannique qu'il y en aurait pour passer du Poitou-Charentes à l'Aquitaine en quelque sorte. Hein. Le problème c'est que cette appellation même de Rohingya, on n'en retrouve à peu près aucune trace avant les années 1960. Si c'est une minorité ethnique, comme l'idée est défendue par les Rohingyas et par la quasi-totalité de l'opinion mondiale, c'est une minorité en tout cas très récente, qui ne se reconnaît comme représentant une entité à part que depuis, disons, deux ou trois générations au maximum. Auparavant, ce sont des gens qui vivaient finalement en assez bonne intelligence avec leurs voisins bouddhistes de l'Arakan, des bouddhistes d'ailleurs dont il faut préciser qu'ils constituent eux-mêmes une minorité ethnique, hein, la minorité des Rakhine, hein, qui ne sont pas identiques aux Bamars, qui sont en quelque sorte la majorité birmane, la majorité dirigeante hein, dans ce pays. Une bonne intelligence qui, au fond, était assez largement fondée à la fois sur un partage de ressources qui était moins rare qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la croissance démographique est, d'une part, la paupérisation généralisée en Birmanie suite à plus de 50 ans de dictature militaire, de gabji, de prévarication généralisée, de vente des ressources à des sociétés étrangères. Tout ça a beaucoup tendu la situation économique pour tout le monde. Et comme ça se passe, disons souvent, en pareil cas, eh bien, on a une sorte de durcissement de différences qui étaient relatives et tout à fait gérables jusqu'il y a quelques dizaines d'années et qui aujourd'hui se sont quelque sorte durcies des deux côtés, hein, en une sorte de raidissement identitaire, raidissement ethno-religieux, bouddhiste d'un côté et musulmans de l'autre.
Fin août, des soldats de l'armée du salut de l'Arakan ont donc attaqué des postes frontières, ce qui a donné lieu donc à cette contre-offensive de l'armée birmane. Mais qui sont vraiment ces soldats? À quoi ressemble ce groupe de l'armée du salut de l'Arakan?
Je crois que personne aujourd'hui n'est vraiment en mesure de le dire très précisément. C'est pas évident d'ailleurs de savoir s'ils représentent réellement une expression importante de la communauté rohingya ou s'ils représentent une petite aile extrémiste. Quelques éléments quand même qui peuvent paraître inquiétants. On est bien obligé de se fonder sur leur propagande, sur ce qu'ils publient. Le nom même de ce groupe sur leur tract, enfin sur leur communiqué, est écrit en arabe. L'arabe qui évidemment n'est pas la langue parlée par les rohingyas, qui parlent donc le bengali, qu'on ne parle pas le birman, et qui constitue évidemment une identification fortement islamique. Les communiqués se placent également sous l'invocation au nom de Dieu puissant et miséricordieux. Donc on a de bonnes raisons de penser que, quoi qu'en puissent en dire certains, on a une organisation qui se trouve d'une façon ou d'une autre dans la mouvance non seulement islamique, mais probablement islamiste. Mouvance islamiste dont il faut préciser qu'elle s'est énormément renforcée ces dernières années au Bangladesh, non pas avec l'accord du gouvernement, mais plutôt dans une lutte contre un gouvernement plutôt d'orientation laïque, plutôt d'orientation centre-gauche, qui justement a voulu sévir contre les organisations extrémistes, islamistes ou djihadistes, mais avec un succès relativement limité, et ce qui peut paraître très inquiétant dans la question des Rohingyas de l'Arakan, puisque même si, évidemment, il serait tout à fait scandaleux de considérer que cette question se limite à cela, c'est la possibilité, évidemment, d'un enquistage d'une zone d'insécurité, d'une zone de non-droit, où pourrait se constituer une base nouvelle pour l'État islamique. On n'en est pas là, mais nier que cette menace potentielle, et éventuellement à assez court terme, puisse exister, serait, évidemment, se faire beaucoup d'illusions.
Aujourd'hui, tout le monde parle de la minorité Rohingya, et que d'autres minorités qui se battent depuis longtemps, je pense aux Kachins, soit un peu passé à la trappe, si j'ose dire, à la trappe médiatique en tout cas. Comment vous l'expliquez ?
Bien entendu, l'armée birmane a une grande tradition, malheureusement, de violence contre l'ensemble de la population birmane, à commencer par les opposants politiques, mais aussi de façon beaucoup encore plus systématique et massive contre les minorités ethniques. Il faut rappeler qu'il y a 135, il n'y a pas moins de 135 groupes ethniques reconnus, sans même compter les Rohingyas, en Birmanie, et vous citiez les Kachins, on pourrait évoquer les Karen, les Wa, beaucoup d'autres qui ont eu maille à partir ou qui ont toujours maille à partir aujourd'hui pour certains d'entre eux avec l'armée birmane, avec au total un nombre de morts, un nombre de réfugiés bien supérieur à ce qu'on dénonce même si c'est à juste titre, il ne s'agit pas de contester dans le cas des Rohingyas. Tout simplement, pourquoi on en parle si peu? Tout simplement, c'est conçu dans ce cas-là comme un problème intérieur. C'est vrai que ça ne met pas beaucoup en jeu les pays voisins, même si dans certains cas, la Chine ou la Thaïlande on s'en soit un petit peu mêlé, mais enfin pas de façon très massive, alors que là on a quand même une imbrication en quelque sorte du Bangladesh avec cette question Rohingya, du fait de la quantité massive de réfugiés dans ce pays ces derniers temps. Et puis il est clair qu'il y a une capacité de mobilisation dans le monde musulman qui est très forte et qui ne correspond absolument pas quelque sorte à ce que peuvent mobiliser les Kachins ou les Karen, qui ont mobilisé certaines, il faut le dire, depuis assez longtemps d'ailleurs, certaines églises chrétiennes, en particulier protestantes, en particulier aux États-Unis, puisque ce sont des minorités qui sont en grande partie christianisées. Eux-mêmes parlent de génocide d'ailleurs, les Kachins, ils sont assez persuadés de subir ce genre de sort. J'en doute tout autant que pour les Rohingyas, mais il n'y a pas de retentissement international et c'est évidemment quelque chose qui est ressenti aussi comme une injustice, comme quelque chose de tout à fait suspect par l'ensemble de la population birmane et puis bien sûr par ces minorités. On se demande en quelque sorte pourquoi est-ce que tout le monde se mobilise pour les Rohingyas, tout le monde dénonce le gouvernement pour les Rohingyas alors que nous, ça fait souvent, même à leur place, c'est souvent depuis les années 1940 en quelque sorte, qu'ils subissent une violente répression et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en a jamais beaucoup parlé.
Est-ce que finalement ce drame des Rohingyas aujourd'hui n'est pas un peu une épreuve du feu pour les autorités birmanes? Est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui qui peuvent montrer que finalement l'inclusivité, la reconnaissance de certains droits civiques peut quand même avoir lieu au compte-goutte dans la Birmanie de demain?
Oui, il y a eu quand même un certain nombre de choses qui ont été acquises, tant dans le processus qui a conduit à la victoire électorale du parti de la Ligue nationale pour la démocratie, du parti de Aung San Suu Kyi. Mais il ne faut pas oublier, pour résumer les choses à grands traits, que d'une part, l'armée contrôle institutionnellement 25% des sièges qui échappent donc à l'élection au Parlement, c'est quand même beaucoup, et d'autre part, ils détiennent tout aussi constitutionnellement plusieurs postes ministériels, en particulier la défense et le contrôle des frontières, question évidemment particulièrement cruciale aujourd'hui, ce qui veut dire que Aung San Suu Kyi ne peut pas faire autrement que négocier difficilement avec l'armée en ce qui concerne la politique qui serait à mener vis-à-vis de ces populations frontalières que sont, entre autres, parmi beaucoup d'autres, les Rohingyas. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il ne s'agit pas de lui compliquer trop la vie. Il y a eu quand même toute une série de choses qui ont été acquises. On a une explosion sans précédent de la liberté de la presse. En Birmanie, on aimerait bien que dans beaucoup d'autres pays, les gens lisent autant de journaux, discutent autant politique qu'en Birmanie. On a une grande liberté individuelle, une liberté de circulation, d'aller à l'étranger, qui n'a pas existé pendant des décennies jusqu'à ces toutes dernières années. On a, de la part de l'actuel pouvoir, une volonté de rétablir l'ensemble des droits civiques pour toutes les populations qui vivent en Birmanie, réconcilier les minorités avec la majorité bamar. Tout ça est loin d'être acquis, tout ça est loin d'être simple, mais la politique de ce gouvernement va quand même dans ce sens-là. Et encore une fois, le problème pour le pouvoir d'Aung San Suu Kyi, c'est de ne pas fournir des prétextes, soit de mobilisation pour les extrémistes bouddhistes qui évidemment se servent en quelque sorte d'arguments violemment anti-musulmans, xénophobes, racistes, pour essayer de pousser leur cause en avant. Je bien des extrémistes bouddhistes, ça ne représente pas l'ensemble du clergé bouddhiste, heureusement, mais ils ont un certain répondant dans une partie de la population, il ne faut pas le contester. Et puis, d'autre part, il s'agit d'empêcher les militaires, que cela pourrait démanger, d'essayer de profiter d'une situation très troublée, d'une paralysie du pouvoir civil, pour, qui sait, revenir au pouvoir, qui leur permet non seulement de ne pas être contestés, mais aussi, comme ils l'ont fait dans le passé, de s'enrichir considérablement. Donc, pour moi, il faudrait plutôt encourager le pouvoir civil actuel, Aung San Suu Kyi, leur montrer qu'on les soutient dans leur tentative de démocratisation, les pousser peut-être à se soucier encore plus activement du sort de persécutés comme les Rohingyas, entre autres, mais sans leur couper l'herbe sous le pied et partir sur des dénonciations qui ne peuvent que servir leurs adversaires, des adversaires beaucoup plus extrémistes qu'elles.
Et Aung San Suu Kyi a conscience aussi de cette instrumentalisation internationale dont elle peut faire l'objet ?
Oui, bien sûr, c'est ce qu'elle dénonce. Hein, mais aussi clair qu'aujourd'hui, on n'écoute plus sa voix. Il s'agit de... On dénonce son hypocrisie, on dénonce le fait qu'elle tolère un génocide, qu'elle ne dise rien, ce qui est faux d'ailleurs. Elle s'est quand même à de nombreuses reprises prononcée pour justement une réconciliation, pour la diminution des haines. Ce qu'elle ne peut pas céder, parce que c'est un point sur lequel il y a une quasi-unanimité dans la population birmane, il faut bien reconnaître que c'est un point sur lequel on ne peut pas tout à fait donner tort à cette quasi-unanimité birmane, c'est le fait que les Rohingyas ne représentent pas, n'ont pas vocation à constituer une minorité ethnique, avec ce que ça implique évidemment dans un pays fondé sur un communautarisme lui-même d'origine coloniale, puisque être reconnu comme une minorité ethnique d'une certaine importance, ça implique presque automatiquement le droit à avoir son propre territoire, avec une forme d'autonomie plus ou moins complète hein, dans l'administration, la possibilité pour les élites de ce groupe d'acquérir localement une position dominante et de porter ombrage aux autres minorités qui craignent en quelque sorte de se retrouver elles-mêmes marginalisées et en but à une sorte de rohingyisation, si je puis dire, forcée dans ce territoire. Et compte tenu du statut quand même au moins partiellement d'origine étrangère de cette population rohingya, de ce point de vue-là, la tentative d'imposer au pouvoir birman la reconnaissance des droits non pas des individus rohingyas, mais des rohingyas en tant que communauté, a tendance à rendre le problème insoluble.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.